On parle de justice et d'élections, de cancer et d'éducation dans ce journal. On ira faire un tour à Miri, aux États-Unis et même en Espagne. On parlera d'une très belle expo photo. Ce sera bien sûr en fin d'édition. Et ce journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
On commence par ce nouvel épisode dans le feuilleton des élections à la CCISM.
Et oui, ce matin, le tribunal administratif examinait la requête en référé de la liste de Kelly Assinmoux, qui avait remporté 3 des 4 collèges aux élections du 27 juin dernier. Il demande, sous peine d'astreinte, que la commission électorale proclame les résultats et que le ministre de l'économie les publie au JOPF. Sachant bien que dans ce cas, c'est la liste sortante qui déposerait un recours, tout le monde reconnaissant que ces élections ont été entachées de nombreuses irrégularités. Maître Loyant pour Kelly Assinmoux a fait valoir que de nombreuses affaires importantes doivent être traitées par la CCISM et qu'elle ne peut pas le faire aujourd'hui puisque la gestion est limitée aux affaires courantes. En cause également l'indécision du ministre qui proposait de refaire les élections en décembre ou janvier et de modifier d'ici là l'arrêté qui fixe le fonctionnement de la Chambre. Il aurait même promis un projet de texte pour le 15 août, mais un mois plus tard, rien ne semble être proposé de ce côté. Il doit y avoir un nouveau scrutin et s'il doit y avoir un nouveau scrutin, il serait bon qu'il ne soit pas dépourvu de base légale, a fait remarquer le président De Villers, qui donnera sa décision demain matin.
Et on parle éducation maintenant.
Et plus précisément de l'enseignement des langues polynésiennes, qui dispose désormais d'un pôle dédié, installé au sein du bâtiment administratif de la DG2E à Pire. Il a été inauguré ce matin, en présence notamment du ministre de l'Éducation, Roni Teliipaia. Il faut dire que ce pôle est au centre de la stratégie du gouvernement Brotherson pour faire monter en puissance le Reo Maui. Il est aujourd'hui composé de 3 formateurs, 2 conseillers pédagogiques et un enseignant animateur chargé de réfléchir à la création d'outils et à leur déploiement dans les établissements, notamment sur les 17 sites inscrits dans le dispositif d'enseignement à parité horaire français-tahitien, les écoles bilingues donc. Il est question entre autres de la mise en place d'ateliers langues destinés aux élèves dans ce pôle, mais surtout aux enseignants. Les précisions de Moana Greg au micro de Vaitiere Perrer.
Vous avez des enseignants qui ont besoin d'être sécurisés, qui ne parlent pas forcément les langues polynésiennes et donc qui ont besoin d'être sécurisés dans la maîtrise, je veux dire, de cette langue, et nous allons réfléchir de quelle manière on va organiser ces ateliers langues pour permettre aux enseignants de pouvoir trouver un point de formation pour pouvoir les aider vers la maîtrise des langues polynésiennes.
Moana Greg, l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de la circonscription Alue-Mahina et qui a été choisi pour piloter donc ce pôle plurilingue de la DG2E. Pour le moment, 2h30 de Reo Tahiti sont inscrits dans le programme scolaire, mais le chargé de mission ne désespère pas de voir les enseignants déployer l'apprentissage de la langue au-delà des horaires officiels. Écoutez.
Il y a la possibilité effectivement pour les écoles de pouvoir, là aussi, pas forcément, je veux dire, dans les horaires officiels, mais sur des temps de récréation, je veux dire, sur des temps d'interclasse, il y a aussi possibilité de déployer l'enseignement des langues polynésiennes au moment où on va faire du sport. On peut là aussi utiliser les langues polynésiennes pour faire, et d'ailleurs ça s'y prête très bien quand on veut faire des arts visuels. Voilà, c'est une langue qui s'y prête très très bien.
Voilà, Moana Greg qui était au micro de Vaitiere Perrer.
Direction l'Institut du cancer de Polynésie.
L'ICPF qui recevait la semaine dernière une délégation d'experts du prestigieux centre Gustave Roussy spécialisé dans la lutte contre le cancer. Des experts consultés régulièrement en visioconférence par les médecins locaux et qui ont cette fois fait le déplacement. En début de semaine dernière, ils participaient même à une soirée d'information pour les professionnels et pour les patients. Le focus, l'oncogénétique. Après un an et demi d'interruption, les consultations spécialisées dans cette discipline qui s'intéresse aux cancers familiaux vont reprendre, c'est ce qu'ont annoncé les cadres du CHPF. L'idée est d'étudier les prédispositions génétiques dans les familles de malades. Écoutez.
L'oncogénétique qui est une consultation qui avait lieu auparavant au CHPF, qui a été arrêtée pendant un an et demi. Donc c'était aussi l'occasion d'annoncer la reprise de ces consultations avec le soutien de l'Institut du cancer. La mutation la plus connue concerne le cancer du sein, mais il y a aussi certains cancers de l'estomac ou des cancers de l'utérus qui peuvent être concernés. Et donc ça veut dire que chez ces personnes-là, il faut vraiment une surveillance particulière plutôt ou avec des examens qui ont lieu plus fréquemment.
Le docteur Teanini Temata-Hotoa de l'Institut du cancer de Polynésie qui précise que l'oncogénétique peut aussi servir pour des patients déjà touchés par un cancer pour orienter les traitements. 2 à 300 personnes, qu'ils soient malades ou présentant des prédispositions familiales, seraient en attente de consultation. L'ICPF pourrait aussi accompagner une mission sur la transmission générationnelle des cancers radio-induits, mission voulue par le pays. Et l'Institut a aussi la lourde tâche de mettre à jour le fameux registre des cancers de Polynésie. De ce côté-là, le travail est presque fini.
On a pu rattraper 4 ans de saisie depuis 2022. Donc là, le rapport est en cours de rédaction. Donc on va sortir le rapport du registre des cancers qui concernera les années de 2015 à 2019. Et on va pouvoir sortir ce rapport avant la fin de l'année, qui sera sur notre site internet.
Tehanini Tematautoa, directrice de l'ICPF, donc, qui travaille sur la recherche clinique au Fénois et sur le dépistage des cancers du sein et de l'utérus. L'ouverture d'un laboratoire Anapath à Tahiti l'année prochaine doit notamment permettre d'améliorer ces dépistages.
Un détour par les hauteurs de Punaoya.
Et par Miri, où un bras de fer est engagé depuis longtemps entre Thierry Barbion, qui a fait construire une bonne partie de ce grand lotissement de Punaoya, et certains des habitants. Ces derniers dénoncent la manière dont le promoteur gère les nouvelles extensions du lotissement. Une trentaine de propriétaires se sont ainsi rassemblés dans un collectif et ont déposé un recours gracieux sur la table de Moëté Brotherson pour faire annuler le permis de lotir de Miri 7, projet prévu de longue date mais dont les autorisations ont été renouvelées récemment. Leur avocat Thibaut Millet y dénonce des incohérences avec le PGA, les graves imprécisions de l'étude d'impact et surtout les nuisances occasionnées par les travaux. Écoutez.
Il y a des sujets de questions environnementales, il y a surtout une problématique de réseau routier, réseau d'eau usée et d'eau potable qui ne peuvent plus supporter davantage d'habitants et une extension aussi importante. Donc c'est le sujet de cette demande de révision de la position de l'administration.
Voilà, Maître Thibaut Millet qui demande donc à l'administration de retirer à Miri 7 le dernier permis de lotir accordé au tout début du mois de mai, juste après les élections, mais juste avant la prise de fonction du nouveau gouvernement. La procédure est sans surprise dénoncée par Thierry Barbion et ses sociétés, et dénoncée de façon assez inédite. Avant même que le recours n'atteigne le tribunal administratif, le promoteur a assigné les 30 propriétaires en justice. Il dénonce une procédure abusive sans fondement et qui n'aurait pour seul but que de retarder ses plans, et leur demande pas moins de 1,2 million milliards de francs de dommages intérêts civils, du jamais vu pour Thibaut Millet qui dénonce une stratégie absurde et inquiétante.
On a un promoteur aujourd'hui qui veut intimider des habitants de Miri pour qu'ils ne déposent pas leur recours contentieux. Ils ont encore 2 mois pour le faire. S'ils ne le font pas, plus aucun recours ne pourra être déposé. Et là, cette action, si elle est faite de manière prématurée, de manière complètement déconnectée de la réalité, c'est simplement pour essayer d'éviter le dépôt d'une requête contentieuse devant le tribunal administratif.
Voilà l'avocat qui avait réuni samedi le collectif de propriétaires pour tenter de les rassurer. Le pays a jusqu'au 19 septembre pour répondre au recours gracieux des habitants qui auront ensuite 2 mois pour saisir la justice. Quant à Thierry Barbion, il rappelle le contexte dans lequel ces attaques ont lieu, celui d'une gestion chaotique du lotissement ces dernières années. L'association syndicale de Miri, qui a connu des retournements de pouvoir et des importants problèmes financiers, a été confiée depuis quelques mois à un administrateur provisoire.
Un mot sur cette finale qui a lieu demain.
Celle des voix de l'outre-mer, en tout cas la partie polynésienne de ce concours de chant lyrique et qui en est à sa 6e édition. Ils sont 10 cette année à vouloir gagner leur ticket pour la finale nationale à l'Opéra de Paris. Et pour ça, il faudra impressionner les juges ce mardi 12 septembre, c'est donc bien demain. Parmi les candidats, des chanteurs expérimentés et d'autres moins, mais tous avec une voix mélodieuse qui leur permet de donner vie au répertoire classique. Tous ont aussi en commun d'avoir pu être accompagnés ces derniers jours par le fondateur du concours, le contre-ténor martiniquais Fabrice Di Falco. On l'écoute au micro de Caroline Perdri.
C'est le seul concours au monde qui offre des masterclass en amont du concours, afin de ne privilégier aucun territoire. Tous les candidats, qui sont autodidactes ou élèves de conservatoire, ont une formation. Ils ont une formation avec Juan Piazza par visioconférence. Ils ont ensuite avec le conservatoire ici de Papeete. Et puis, à mon arrivée, pendant plusieurs jours, cette masterclass, un peu pour les déstresser déjà, qu'ils puissent avoir confiance en eux et puis leur montrer que si j'ai réussi à le faire moi, ils peuvent le faire.
Fabrice Di Falco, qui rend hommage au passage à Gabi Cavallo, qu'il avait rencontré lors de la première édition locale du concours et qui l'avait surpris par l'éclectisme de sa classe de chant. La finale de cette étape polynésienne se tiendra donc au Grand Théâtre de la Maison de la Culture le mardi 12 décembre. C'est demain à 20h. Les places sont disponibles sur le site du concours.
On revient sur les résultats sportifs du week-end.
D'abord du côté de Aoreitiniao, où le V6 d'Air Tahiti a repris son titre sur la Air Tahiti Race 2023. L'équipage s'est imposé lors d'un aller-retour vers le Motu Martin face à la team OPT et au surprenant rameur de Maua Tamaitino Papara. Shelva n'était pas aligné sur cette course et avait choisi de s'envoler pour la Catalina Channel Crossing près de Los Angeles. Une traversée de 48 km avec des équipages internationaux largement dominés par les jaunes qui ont même signé un nouveau record de l'épreuve. Enfin, toujours plus loin et toujours côté mer, direction l'Espagne et la ville de Loredo, où était organisée ce week-end les mondiaux de chasse sous-marine. Une centaine de compétiteurs venus de 38 pays étaient sur place, ce qui n'a pas empêché à 4 Tahitiens de se classer dans le top 10 mondial en individuel. Onyx Le Bihan ramène même une médaille de bronze pour sa toute première participation, mais c'est surtout au classement par équipe que le Fénois a brillé. Deuxième place pour les filles derrière les seuls Espagnols qui pêchaient à domicile. Troisième chez les hommes dans une compétition très disputée. Des résultats jugés historiques par la Fédé.
Et puis une expo pour terminer.
Une expo qui va faire du bien dans la grisaille actuelle. Une Une dizaine de photographes se proposent à la Maison de la Culture de présenter leurs plus belles photos du Heiwai Tahiti, désert de Turai donc dans la salle Muriavei, d'autant que ces pros de l'objectif vont à la fois montrer leurs clichés des concours de danse et de chants de Tuata, mais aussi ceux des Tuaro Maui, du Heiwai Rimai ou des Heiwai Matae Nawa. Une exposition pour les passionnés, pour les curieux aussi et pour les amoureux de la culture, bien sûr. Voilà ce qu'en dit Tefare Tawitinui, qui organise donc le vernissage demain à 18h. Les photos resteront en place jusqu'à ce samedi 16 décembre et l'entrée est gratuite. C'est la fin de ce journal. Le retour de l'actu, c'est à 16h. Mais restez avec nous, puisque tout de suite, on retrouve Gilles Lafitte, notre spécialiste de l'Ovalie et qui vient de la Fédé de rugby. À bientôt.
Coupe du monde de rugby 2023. On refait les matchs avec la Fédération polynésienne de rugby.
Vous l'avez compris, on met l'accent sur le ballon ovale durant cette Coupe du Monde de rugby à 15 2023 qui se déroule en métropole. Vous le savez, on a démarré ce vendredi avec le match de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande. L'équipe de France qui s'était imposée 27 à 13. C'était le match d'ouverture. On va retrouver l'équipe de France ce jeudi. Ça sera contre l'Uruguay, mais vous inquiétez pas, on aura le temps d'y revenir ce mercredi. On fera l'avant-match avec justement Gilles Lafitte, directeur technique de la Fédération polynésienne de rugby. Yorana Gilles, comment ça va? Attends, j'active ton hop le micro et c'est à toi. Est-ce que tu nous entends Gilles de ton côté? Alors la liaison est en train de se faire, vous inquiétez pas, on va retrouver donc Gilles dans quelques secondes pour nous parler un petit peu de tous ces matchs qui ont eu lieu ce week-end, puisque vous le savez, la Coupe du Monde a bien démarré et les premiers matchs de tous les groupes ont enfin eu lieu. Gilles, est-ce que tu es avec nous?
Eh bien écoute, moi je vous entends bien, est-ce que vous m'entendez bien?
Eh bien écoute, c'est parfait, donc je le disais, on va...